Bonjour mes frères et sœurs, je voudrais vous faire une lecture dans 1 Pierre 5, verset 8. Je lis. Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Prions. Merci Jésus pour de telles paroles qui nous encouragent. Et je te prie que vraiment le conseil que je vais donner à mes frères et sœurs puisse leur faire du bien aujourd'hui. Merci Seigneur. Amen. Je voudrais vous lire le même passage, mais dans une autre version de la Bible, dans la version de notre frère suisse, Alfred Kuhn, La Parole Vivante. Voilà ce que ça donne. Une fois pour toutes, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il vous a pris en charge. Attention, soyez vigilants, votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant, et il cherche qui se laissera dévorer. Opposez-vous à lui avec une foi inébranlable. Vous savez que vos frères dispersés à travers le monde passent par les mêmes épreuves. Mais quand vous aurez souffert un peu de temps, Dieu, l'auteur de toute grâce, qui vous a appelé à sa gloire éternelle dans la communion du Christ, vous relèvera lui-même, il vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable en vous établissant sur un fondement solide. À lui appartient la puissance au siècle des siècles. Amen. J'aime cette version. Elle n'est pas magnifique, cette version? Je trouve ça magnifique. Dimanche passé, je vous parlais sur la richesse des mots. Parce que c'est bien veiller, prier, soyez sobre, faites attention, le diable tourne autour de vous. Mais nous avons compris qu'il y a des lois, et veiller, c'est pas simplement ne pas dormir, puis rester éveillé, puis faire attention à ce qui se passe autour de nous. Non, non, non. Je vous parlais sur la richesse des mots et de leur pouvoir. Les mots ont le pouvoir de revêtir nos pensées. Nos pensées, elles sont nues à l'intérieur de nous et quand on les sort par les paroles, par des mots, elles sont revêtues. Et en fait, c'est ça qui nous différencie des animaux, des autres animaux, je devrais dire. L'homme a eu une idée géniale, c'est de mettre ses mots par écrit. Il a inventé l'écriture. Alors, c'est ainsi qu'on a pu écrire l'histoire et c'est ce qui nous permet d'acquérir un héritage. Aujourd'hui, on peut, grâce aux mots écrits, entrer en contact avec les plus grands penseurs, les plus grands auteurs de tous les temps, comme jamais auparavant, avec l'Internet. Ainsi, nous avons accès à la pensée qu'on appelle la pensée universelle. Et le but de la pensée, c'est de créer la forme, c'est-à-dire que la pensée sort en tant que parole, et puis ensuite la parole devient chair. Hein? Dieu a fait comme ça, et nous avons à faire comme ça. La parole doit devenir une réalité, doit devenir chair, réalité. Nos pensées personnelles tentent de s'exprimer sous une forme. Alors dimanche passé, je vous disais que le mot, c'est la forme d'une pensée. Nous avons à utiliser les mots adéquats pour arriver à nos buts. Alors, on a tous un idéal de vie. J'espère que vous avez un idéal de vie. Si votre idéal de vie est beau, si votre idéal de vie est fort, alors vous allez construire ce temple à partir des mots que vous allez choisir pour le créer. Ne pas créer n'importe comment. Vous devez soigneusement assembler vos mots choisis. Pourquoi ? Parce que c'est une construction de votre vie, de votre avenir. Parce qu'une construction de mots et de phrases exactes, c'est la forme la plus élevée d'architecture de toute la civilisation. C'est un passeport vers le succès. C'est pourquoi les esprits méchants, les esprits de mort, les esprits mauvais, les démons s'attaquent aujourd'hui au vocabulaire pour ruiner la génération actuelle. Vous ne me croyez pas ? Vous ne croyez pas? Ben tant pis, continuez à vous exprimer par onomatopée. Oncre, oncre, yo, yo. MDR, PTDR. Agathe. Les mots sont des pensées exprimées et ils constituent un pouvoir qui va obligatoirement se manifester dans le monde réel. Les mots peuvent devenir des lieux mentaux ou des maisons de paille qui s'écroulent à la première brise. Hein. Les mots sont des messagers vivants dont provient toute l'activité humaine. Communique. Il y a des mots qui sont beaux. Alors, ces mots qui sont beaux correspondent à la beauté de la pensée. Le pouvoir du mot correspond au pouvoir de la pensée. Et le pouvoir de la pensée correspond à la vitalité qui se dégage du mot. Quand je dis feu d'artifice, c'est autre chose que quand je dis bouche d'égout. Vous voyez? Refusez de penser. Qu'est-ce que ça crée dans votre pensée quand je dis feu d'artifice ou quand je dis bouche d'égout, bidet? Hein, vous voyez, ça change. Il y a des images qui viennent en vous, qui sont plus ou moins glorieuses, plus ou moins belles, plus ou moins pétillantes, plus ou moins enthousiasmantes, qui créent des émotions. L'autre jour, on était au mariage de Lara et Joachim, nos amis, et ils ont terminé avant le dessert, il y a eu un feu d'artifice avec des jets d'eau, la musique, c'était magnifique. Hein, et on choisit des belles choses. Choisissez aussi des beaux mots pour arriver à de beaux résultats. Le pouvoir de la pensée correspond à la vitalité qui se dégage du mot. Alors, refusez de penser à ce qui n'est pas essentiel. Comment peut-on identifier une pensée essentielle? Parce qu'alors, je parlais avec une personne qui a dit « Oui, tel et tel m'a dit ceci, m'a dit cela. » Je dis « Bien alors, ça change quoi ? » La situation n'a pas changé. Elle t'a simplement montré son cœur. Mais ce n'est pas grave, la situation n'a pas changé. Elle est toujours la même. Et elle montre sa colère, elle montre sa haine. Mais ça change quoi pour toi, dans ta vie, dans ton idéal ? Rien du tout. Laisse faire. Quels sont comment est-ce qu'on peut identifier les pensées essentielles, les pensées sur lesquelles on va s'attarder? Quelles sont les caractéristiques distinctes des pensées essentielles? Il doit y avoir un principe, il doit y avoir une loi, parce que tout ce que Dieu a créé est géré par des lois. Alors, comment identifier ce principe? Eh bien, mes frères et sœurs, Dieu a créé la lumière. Il y a un principe de la lumière, mais il n'y a pas de principe des ténèbres. C'est quand le principe de la lumière cesse que les ténèbres apparaissent, c'est tout. De même pour la santé, de même pour la vérité, de même pour l'abondance. Comment savoir si ce que je vous dis est vrai? Comment savoir si c'est vrai ce que je vous raconte? Par exemple, appliquez correctement les principes des mathématiques. Et vous pourrez être certain de vos résultats. N'est-ce pas la vérité? Un autre exemple. Si nous connaissons la vérité, on ne peut pas être induit en erreur. Voilà pourquoi les élus ne peuvent pas être dans l'erreur, parce qu'ils connaissent la vérité. La vérité, ce n'est pas seulement une doctrine, c'est une personne, c'est Jésus. Hein? Mais c'est aussi une doctrine, une façon de penser, une façon de vivre. Prenons un exemple tout à fait récent. Monsieur Ignierski est venu du catholicisme dans le milieu évangélique. C'est un homme qui réfléchit et c'est un homme qui est loin d'être stupide. Cependant, il ne connaît pas la vérité. Alors, il a pondu trois livres très complexes, très compliqués, avec des calculs très savants, mais cela a induit des milliers d'ignares, excusez-moi l'expression, dans l'erreur. Parce qu'ils ne connaissaient pas la vérité. Quelle vérité? La vérité qui est dans Matthieu 24 et Matthieu 25. Lisez tous ces deux chapitres, vous aurez la vérité. Est-ce que vous allez trouver dans ces chapitres une phrase qui laisse entendre que Jésus va revenir secrètement pour enlever son Église? Non. Lisez, vous allez voir, il n'y a rien qui parle d'un moment où Jésus va venir pour enlever son Église dans Matthieu 24-25. Si c'était vrai, il le dirait, il ne le dit pas. Jésus sait que le sujet de son retour, il savait déjà quand il était sur la terre, et bien que ça allait être un sujet qui va réveiller bien des consciences, plus ou moins équilibrées. Alors il commence par dire, dans son explication, « Prenez garde que personne ne vous séduise. » Alors voilà, on est averti, il faut faire attention, il y en a qui vont venir nous séduire. C'est un sujet que le séducteur va utiliser, le retour de Jésus. Jésus ne parle pas du tout d'un quelconque enlèvement de son Église avant son retour ou avant la grande tribulation. Rien. Oui, il parle d'un enlèvement à la fin. Lisez correctement le texte sacré. Et Jésus dit clairement que personne ne sait ni le jour ni l'heure, même pas les anges. Matthieu 24, 36. Il y a certains trinitaires, ils ont rajouté dans leur Bible, ni même le Fils. Mais ça n'est pas écrit réellement. Il y en a qui sont un peu plus honnêtes, ils ont mis ça entre guillemets, puis il y en a qui ont carrément, ils ont enlevé ni même le Fils, parce qu'on sait très bien que le Père et le Fils, c'est la même personne. Bref, bon. 1 Thessaloniciens 4, 16 a été interprété comme quelque chose d'autre encore, de différent, n'est-ce pas? Jésus ne revient pas, il pose pas les pieds sur terre, il reste dans le ciel, on part à sa rencontre, et puis il y a une tribulation qui dure, c'est une interprétation, et ça vient du darbisme. Vous connaissez les darbistes? 1 Thessaloniciens 4, 16 ne nous parle pas d'autre chose que ce dont nous parle Jésus dans Matthieu 25, 1, 3, quand il raconte la parabole de vierges qui partent à la rencontre de l'époux. Oui, les vierges sages partiront à la rencontre de l'époux, oui. Il ajoute, veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure à laquelle le Fils de l'homme viendra. Matthieu 25, 13, voyez, ça fait deux fois il le dit, deux fois il le répète, pour que ça soit bien clair. Vous ne saurez pas à quel moment je reviendrai. Vous ne le saurez pas. Vous aurez des signes avant-coureurs qui vous montreront que voilà, c'est le temps. Mais le jour et l'heure, vous ne le saurez pas. Bref, M. Ignarski ne connaît pas la vérité. Il connaît la doctrine darbiste. Et puis, il l'a arrangée à sa façon avec des calculs savants qui impressionnent les mémères. Bon, ben c'est très bien, mais... Alors, ne connaissant pas la vérité, il est tombé dans une erreur et il a publié ses bouquins qui annoncent que l'enlèvement de l'Église aurait lieu le 14-15 septembre 2015. Ben voilà. Ah. Est-ce que ça s'est produit? Non, ça ne pouvait pas se produire. Et je l'ai dit dans tous les réseaux sociaux et je l'ai dit dans mes prédications. Je me suis fait insulter par des gens qui... des eschatologues et compagnie, parce que je... Il disait, tu nous discrédites. Non, ils se discréditent eux-mêmes en disant des choses comme ça. Parce que c'est faux, ils ne connaissent pas la vérité. Ils ont créé un échafaudage branlant à partir de certaines données qui sont fausses. Et voilà. J'ai tenté de les avertir. Ils ne m'ont pas cru. Pourquoi? Parce que les gens de ce siècle aiment les fables. Ils n'aiment pas la vérité. Vous voyez? Si nous savons la vérité, nous ne pouvons pas être induits en erreur. C'est comme si nous laissons entrer la lumière, aucune obscurité n'est possible. Et là où il y a l'abondance, il ne peut pas y avoir la pauvreté. C'est des faits évidents. Alors, nous voyons ce qu'est le pouvoir de nos pensées. La vérité capitale, selon laquelle une pensée contient le principe essentiel, qu'une pensée contient en elle-même la vie, cela, c'est de la plus haute importance. Mais je le dis depuis, ça fait des années, mais les gens disent, oh non, quand même, la l'air, ils veulent pas croire ça. Mais par contre, le premier qui vient leur dire la date du retour de Jésus, alors là, ils courent derrière. Il y en avait déjà eu un autre, là, qui avait dit ça il y a 4-5 ans. Je sais plus son nom, celui-là, il a disparu dans les brouillards du Rhône aussi, celui-là, il a écrit un bouquin. Oui, nous saurons la date, parce que Jésus dit qu'à la fin, il ne serait comme du temps de Noé, et Noé a été averti 7 jours avant, donc nous serons aussi avertis, nous aurons la date. Voilà, ben, la date est arrivée, hein, puis voilà, puis c'est rien passé. Ils ont des lubies comme ça. des pensées. C'est important d'avoir la pensée juste. Je connais une chrétienne qui n'est pas pauvre, mais qui est toujours ric-rac, comme on dit en Suisse, c'est-à-dire qu'elle est juste toujours à la limite de la pauvreté. Ça fait 30 ans que je la connais, c'est une vendeuse, et elle dit sans cesse, oh, les gens n'ont plus l'argent, oh, c'est la crise, c'est faux! Il me dira, bon, c'est pas la crise. Il y a une crise, bien sûr. Mais les magasins sont pleins de gens qui achètent toutes sortes de trucs et pas forcément des choses indispensables. Sur le net, ils achètent plein de trucs qui sont pas indispensables. Les restaurants sont pleins de gens qui dépensent un argent fou. L'autre soir, nous étions invités au restaurant, nous avons été, et quand on est sorti, on a marché dans la rue, et on voyait tous les restaurants à 10h30, encore plein de gens en train de bouffer. Il y a de l'argent. L'autre jour, je suis allé avec mes petits-enfants à Disneyland, c'est plein de monde à 59 euros par personne, par adulte. Et mon petit-fils qui a 15 ans, c'est un adulte, hein, pour Mickey. Eh ben, il y avait plein de gens, c'est plein de monde. Pourquoi cette sœur ne vend pas? Il y a plusieurs raisons. La première, c'est que ce qu'elle vend, c'est moche. La deuxième, c'est qu'elle ne travaille pas assez d'heures dans sa journée. Et la troisième, c'est qu'elle n'est pas faite pour ce travail, pas du tout. Mais ça, vous pouvez lui dire sur tous les tons, en chantant, en criant, en l'exhortant avec des versets bibliques, rien à faire. Elle ne veut pas travailler pour un patron. Pourtant, elle ne peut pas faire autrement pour vivre décemment. Elle veut être libre. Alors, elle part à l'heure qu'elle veut, elle fait comme elle veut, mais elle est insoumise dans tous les domaines. Elle est en désharmonie, on a beau lui dire, elle a toujours raison, alors bon, voilà. Si elle écoutait la vérité, elle serait à l'aise financièrement. Vous savez, Osborne m'avait dit une chose qui m'a, à l'époque, j'étais outré quand il m'a dit ça. Et je vais vous le dire, ça va peut-être vous outrer aussi. Mais il m'avait dit, puis après j'ai réfléchi, je me suis dit finalement, il m'avait dit, la pauvreté est une maladie mentale. Une maladie de la mentalité. Vous avez des pays entiers qui croient des choses tellement fausses qu'ils les tiennent dans la pauvreté. Alors qu'ils marchent sur l'or, sur les diamants et tout ça. Et ils sont fatalistes et ils ont plein d'idées fausses sur... Moi je me rappelle Nicolas Savadogo, l'homme qui me traduit depuis 15 ans au Burkina. La première fois qu'il est venu en France, je l'ai emmené manger aux Champs-Élysées à Paris. Et puis on a été voir le magasin, je crois que c'était Peugeot ou Renault, je ne sais plus, où il y avait des prototypes qui étaient là. Des choses magnifiques, et il criait, tout ce pognon pour des bagnoles, ça sert à rien du tout. Alors je l'ai pris à part, et j'ai dit, tu sais ce que tu es en train de faire là? Tu es en train d'insulter des gloires déchues peut-être, maman, mais tu es en train de l'insulter, et si tu fais ça, tu n'auras jamais une belle voiture de ta vie. Elles te fuiront les belles voitures, tu auras toujours des vieilles carrioles, un peu comme tous les chrétiens évangéliques, quoi, des vieilles bagnoles qui ne fonctionnent pas, qui sont tout le temps en panne, qui... Il m'a cru, lui. Il m'a cru. Maintenant, il roule dans des voitures extraordinaires. Pourquoi? Parce qu'il m'a cru, alors il a eu de la chance. Non, parce que le fait de me croire, il a commencé à penser autrement et à agir autrement. Vous comprenez la chose? Donc, c'est bel et bien une question de mentalité. La pauvreté n'est pas normale. La pauvreté n'est pas naturelle. Elle est l'absence d'abondance. L'abondance, elle est pourtant partout. Dieu a créé tout de façon abondante, surabondante. Mais encore faut-il le croire. Une pensée, elle contient en elle-même la vie. Et la vie, elle prend racine pour supplanter les pensées négatives qui peuvent nous venir par les informations, par la télévision, tous les jours, d'une façon hyper régulière, on vous martèle ces choses, c'est la crise, ça va de pire en pire, c'est mal, c'est affreux, c'est épouvantable, c'est la crise, et puis à la force, on y croit. Hitler avait dit un truc incroyable, il avait dit, vous dites 10 fois un mensonge, ça reste un mensonge. Mais si vous le dites 1000 fois, ça devient une réalité, ça devient une vérité. Vous avez compris ? quelque chose de terrible et il a fait beaucoup de mal avec. C'est ça qui est dommage. Mais si vous qui êtes chrétien, vous comprenez ces choses, vous pouvez faire beaucoup de bien avec. Une pensée négative, les pensées négatives viennent de notre mauvaise façon d'appréhender la vie. Et c'est grave, parce qu'une pensée négative ne contient aucune vitalité. Mais quand je dis ça, la plupart des gens ne me croient pas. Et ils s'en vont dans leurs ténèbres. Ceux qui me connaissent bien savent ce que ça veut dire, hein. Ils s'en vont dans leurs ténèbres. Alors, notre avantage, c'est que nous savons que c'est vrai. Et nous utilisons cette loi pour détruire tous les effets de discorde, de manque et de limitation. Mes frères et sœurs, dans mon cœur, il n'y a aucun doute. Quiconque est assez sage pour comprendre, quiconque est assez humble pour admettre et pour croire, reconnaîtra aisément que le pouvoir de la pensée place une arme invincible entre ses mains et le rend maître de son destin. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu, la parole, les mots de Dieu. Vous voyez les mots, la parole? Voilà, mes frères et sœurs. Alors, d'après le faux prophète, cette prédication que je vous apporte là, ça devrait être la dernière du vendredi, puisque lundi, c'est la fin de l'été, et que normalement, je devrais mourir. Eh bien, on verra. On verra. Allez, je vous embrasse, et je prie afin que vous soyez fidèles à ce que Dieu nous a confié, parce que c'est très précieux. Celui qui est né de nouveau, il se garde lui-même. Veillez sur vous. Veillez sur vos pensées. Veillez sur vos paroles, veillez sur vos attitudes. Dieu et ses bonnes lois se chargeront de tout le reste. Amen. Merci Jésus de permettre que quelques personnes qui m'écoutent ce soir puissent croire ces choses et voir ainsi leur vie changer en bien. Amen.